11h04 de retour dans Trudeau-Landry. On vous rappelle la GRC qui a confirmé qu'il y a une opération policière qui est en cours en ce moment à Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal en lien avec l'enveloppe dangereuse qui a été envoyée à Donald Trump au cours des derniers jours. On sait qu'il y a une Montréalaise qui aurait été arrêtée à la frontière, pas loin de Buffalo, qui est de Niagara Falls dans le fond, là, et qui aurait été arrêtée là. On parle peut-être même d'une arme à feu. Bref, c'est sûr que ça fait jaser beaucoup aux États-Unis. Et l'autre chose, c'est qu'il y a eu un coup de tonnerre épouvantable avec le décès de la juge à la Cour suprême, la juge en chef Ruth Bader Ginsburg, RBG, comme on la surnomme. Et samedi matin, Raphaël Jacob nous a écrit à 10h à peu près sur Messenger en disant « Les gars, faut absolument qu'on se parle lundi de RBG. » Et je le cite en disant « Les médias et les gens ne réalisent pas l'ampleur de la crise que ça peut causer. C'est nucléaire. »
C'est ça, c'est qu'elle elle était progressiste. C'est une femme, une icône du féminisme. Donc, puis là, lui, il veut la remplacer rapidement pour...
Avant l'élection.
C'est ça, pour mettre quelqu'un à son goût à lui à la Cour suprême.
Exactement, et ça va avoir un impact sur la campagne électorale. On se demandait quand est-ce que ça décollerait la campagne électorale. Pas mal l'impression que ça a décollé. On va aller rejoindre notre collègue Raphaël Jacob. Salut, Raphaël! Est-ce que Raphaël est là? Raphaël, une fois, deux fois, on a perdu... Raphaël, bon, OK. Salut, Raphaël!
OK, je suis là.
Raphaël, écoute, donc je disais, tu mentionnais que c'était nucléaire. Si, pour les gens qui n'ont pas nécessairement suivi ça au cours de la fin de semaine, résume à quel point c'est important et pourquoi.
Premièrement, Joe, juste à être clair, à partir de maintenant, les messages que je t'envoie en privé, tu vas les lire en onde, parce que si c'est le cas, je vais arrêter de t'envoyer des petits messages d'amour aussi.
Non, je les filtre, t'inquiète-toi pas, Raphaël.
Ben, écoute, c'est nucléaire pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la, évidemment, doyenne de la Cour et une juge, tu l'as dit toi-même, là, en ouverture de segment, qui est complètement opposée à Donald Trump idéologiquement et au genre de juge qu'il nomme. Donc, à date, depuis le début de sa présidence, Donald Trump a pu nommer deux juges à la Cour suprême, le juge Gorsuch, le juge Kavanaugh. Dans les deux cas, ces juges-là venaient remplacer des juges qui avaient été nommés par des présidents républicains. Donc, ça venait solidifier l'aile conservatrice, si on veut, l'aile de droite de la Cour suprême. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pas simplement remplacer un conservateur par un conservateur, c'est remplacer une juge de gauche par une juge de droite. Donc, il est question d'élargir l'aile conservatrice, de non seulement solidifier, mais amplifier l'aile de droite, l'aile conservatrice de la Cour suprême. Donc, d'un point de vue idéologique, c'est gigantesque comme mouvement potentiel. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, et je pense que c'est l'aspect le plus explosif, ben c'est le contexte électoral. Ouais. Jamais de nos vivants. Est-ce qu'on a eu un siège à la Cour suprême qui est devenu vacant aussi près d'une élection présidentielle? Il reste même pas 50 jours. Et troisième gigantesque facteur également, c'est ce qui s'est passé il y a 4 ans. Il y a ça aussi comme contexte qui rend le tout non seulement explosif, mais comme je vous l'ai dit, nucléaire. C'est qu'il y a 4 ans, on avait eu un siège qui était devenu vacant peu de temps, un petit peu plus longtemps avant l'élection, mais peu de temps. C'était en février de l'année électorale, 2016. Barack Obama était président. Et pour ceux qui suivent ça, peut-être ne serait-ce que d'un peu près, parce qu'on en avait beaucoup parlé à l'époque, eh bien, le président Obama avait effectué une nomination à la Cour. Il y a un juge qui était décédé. Le président Obama était venu pour le remplacer. Mais le Sénat, qui est aux États-Unis, a le pouvoir constitutionnel soit de confirmer ou plutôt de bloquer ou de refuser une nomination présidentielle, avait bloqué la nomination de Barack Obama. Le Sénat était à majorité républicaine et la raison qu'on avait donnée à l'époque du côté des sénateurs républicains, c'est que on ne devrait pas faire confirmer un juge à la Cour aussi près d'une élection. On devrait plutôt laisser les électeurs trancher et le président qui gagne l'élection bien, peut après ça combler le siège vacant à la Cour. Sauf que là où ça devient immensément controversé, c'est que cette même majorité républicaine au Sénat, maintenant qu'elle a un président de son parti, a dit quoi depuis vendredi? Elle a dit qu'on allait aller de l'avant, même s'il reste encore fois moins de 50 jours avant l'élection, avec la nomination que va effectuer Donald Trump dans les prochains jours. C'est hallucinant comme crise. C'est pas juste une controverse, c'est une crise qu'on va vivre aux États-Unis.
Puis là, dans le concret, Raphaël, peut-être pour expliquer aux gens, comme tu le disais, qui suivent peut-être un peu moins ça, c'est que la Cour suprême aux États-Unis a à se prononcer sur des questions d'ordre social. Souvent, c'est un peu ça. Oui. On craint qu'il y ait des décisions, par exemple, reliées au droit à l'avortement. Ce genre de questions-là, j'imagine, là, c'est là-dessus qu'on a certaines craintes. Là.
C'est ça, parce que Il n'y a pas des questions, par exemple, au niveau fiscal qui vont être vraiment adressées par la Cour suprême. Il n'y a personne qui remet en question, par exemple, le pouvoir du gouvernement fédéral américain de, je ne sais pas, par exemple, hausser les impôts, baisser les impôts de 2 ou de 3 ou de 10%. Le pouvoir constitutionnel, il est très, très clair là-dessus. Le gouvernement a le droit de faire ça. Par contre, la Constitution est beaucoup moins claire pour ce qui est, par exemple, de questions comme le fameux deuxième amendement. Donc, on sait qu'il y a un amendement constitutionnel sur le port des armes à feu, mais qui est interprété de façon très différente. Si vous avez une perspective juridique plus à gauche, plus à droite. Même chose, justement, avec le droit à l'avortement. Même chose avec la réglementation gouvernementale, que ce soit en matière d'environnement ou d'à peu près quoi que ce soit. Donc, ce sont des enjeux où on peut penser à l'immigration illégale, les droits des gays, lesbiennes, etc. Donc, vous avez un ensemble d'enjeux hyper sensibles socialement qui sont souvent tranchés au final par la Cour suprême. Et la Cour suprême a ça de très spécial, en fait, d'unique dans le système américain. C'est essentiellement la seule institution qui ne peut pas être renversée par une autre. Autrement dit, quand la Cour suprême rend une décision, elle est finale.
Un peu comme au Canada, d'ailleurs. Là.
Ouais. Oui, ouais. Absolument. Le Congrès ne peut pas la renverser, le président non plus. Et souvent, je me permets très rapidement d'ajouter ceci, c'est que la division présentement à la Cour suprême, non seulement elle est idéologique, mais elle est hyper serrée. On a des décisions souvent à 5 contre 4.
C'est quoi le portrait actuel là, de la Cour suprême aux États-Unis?
D'un point de vue idéologique, on a 4 juges qui sont très clairement campés à droite. Mmh. On avait 4 juges qui étaient très clairement campés à gauche, dont la maintenant défunte juge Ginsburg, celle qui est décédée vendredi. Et on a le juge en chef, John Roberts, qui lui est davantage officiellement du côté de l'aile conservatrice, mais souvent, incluant cette année, un peu plus tôt cette année, s'est joint à l'aile plus à gauche pour rendre des décisions qui faisaient, disons, davantage l'affaire de l'aile gauche, justement. Et donc, on a eu beaucoup de décisions à 5 contre 4. Et là, on n'est plus à 5 contre 4. On serait à 4 à 4. Comprenez? Ouais. Parce que la juge Ginsburg n'est plus là. Donc, dans ces décisions-là qu'on a eues, par exemple, au mois de juin, justement sur des questions qui touchaient le droit des gays et lesbiennes, le droit des immigrants clandestins, bien, ces décisions-là, à 5 contre 4, qui ont été tranchées du côté, si on veut, gauche du spectre politique américain, si ça avait lieu aujourd'hui, ça serait des décisions à 4 à 4. Et si Donald Trump effectuait une nomination, par exemple, de nouvelle juge conservatrice, bien, ça serait 5 à 4. De l'autre côté. Mm-hmm. Donc, vous comprenez, c'est que ça peut faire complètement basculer non seulement la jurisprudence, mais comment d'énormes questions sociales sont tranchées aux États-Unis. C'est gigantesque.
Il y a le système de justice qui est touché, l'avenir du système de justice, mais l'autre élément à plus brève échéance, c'est la campagne électorale, parce que ça peut avoir un impact. En fait, ça va avoir un impact sur la campagne électorale. Et j'ai hâte de t'entendre là-dessus, et corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça peut être un atout pour Donald Trump assez puissant, parce que il y a beaucoup de républicains qui étaient peut-être tannés de Donald Trump, ou c'est une espèce de lassitude devant le personnage, mais qui sont très à cheval sur les valeurs sociales, qui sont très conservateurs. Et là, ça, c'est c'est du gaz pour eux autres, là, de voir que de maintenir Donald Trump, advenant l'éventualité que le Sénat, là, ce soit plus compliqué le processus, puis que ça doit se faire après l'élection, qui vont dire, ah ben là, attends, il faut qu'on vote massivement pour Trump pour pouvoir aller chercher cet acquis-là à la Cour.
Mais justement, c'est là que ça devient, encore une fois, hyper explosif. Quand est-ce qu'on va aller de l'avant avec cette nomination-là? Parce que là, il reste à peu près 45 jours avant le vote. Okay? Il n'y a aucune garantie qu'on va voter avant le 3 novembre au Sénat pour confirmer cette juge-là. Je l'accorde au féminin, je me permets cette petite prédiction très modeste-là. Je serais très, très surpris qu'on ait une candidate qui n'est pas une femme, là, que Donald Trump va mettre de l'avant. Donc, présumant justement que c'est une femme qui est mise de l'avant, très possible qu'on ne statue pas sur cette nomination-là avant le 3 novembre. Or, Donald Trump, même s'il est battu le 3 novembre prochain, ne quitte pas ses fonctions le lendemain. Il est en fonction jusqu'au mois de janvier.
Ben oui.
Et le Sénat est également, le Sénat qui a été élu il y a 2 ans, est également, a également son mandat qui expire seulement en janvier prochain, peu importe les résultats des élections sénatoriales qui ont lieu également le 3 novembre. Donc, imaginez cette situation aussi. Donald Trump effectue une nomination qui est déjà ultra controversée à cause de ce que je viens de vous expliquer comme situation, comme dynamique. Il perd sa campagne de réélection le 3 novembre, Mais le Sénat, à majorité républicaine, confirme sa nomination dans la période de transition, après qu'il ait été battu, mais avant qu'il quitte ses fonctions. Imaginez, quand on parle de crise, là, quand je vous ai utilisé le mot crise, on a une crise démocratique,
mais
à peu près peu importe qui va se passer.
Mais ça va être pénible, ce bout-là. Tu viens de me faire réaliser ça, peut-être entre autres à cause de ça, mais de façon générale, là, s'il perd son élection en novembre, là, novembre, décembre, janvier, ces trois mois-là, Raphaël, là. Ça va être pénible, pas à peu près. Là. Il va nous en sortir
ça
des, belles, des histoires. Là. On a parlé
Jérôme,
des
ça va être l'enfer.
Du doute qui essaie de semer sur le vote et tout ça, mais ça va être vraiment, vraiment épouvantable, ces trois mots-là. Là.
Mais en fait, je vais aller plus loin que ce que tu viens de dire. Ah. Moi, je pense déjà à après janvier.
Ouais.
Si, par exemple, Donald Trump perd, que les sénateurs républicains confirment néanmoins sa nomination à la Cour suprême, et que là, les démocrates prennent le contrôle en janvier, comment est-ce que vous pensez qu'ils vont se comporter? Qu'ils vont dire, ah, là, on a vraiment été malchanceux, mais là, tu sais, nous autres, on va être des gentilshommes.
Ouais,
nous autres, on va être, tu sais, des bons joueurs. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? On est déjà en train d'évoquer dans les cercles démocrates l'idée, puis là, vous allez me pardonner l'anglicisme, là, je ne connais pas d'équivalent en français, d'une expression qu'on appelle packing the court. Autrement dit, pacter la Cour suprême. Donc, ajouter des juges. Parce que là, on aurait une très nette majorité conservatrice. Et donc, les démocrates sont en train déjà d'évoquer la possibilité de, ben, OK, si les républicains et Donald Trump mettent leur candidate de l'avant, OK, nous autres, quand on va arriver au pouvoir en janvier, ben, là, on va faire en sorte que la Cour suprême passe de 9 juges, par exemple, à 13 ou à 15, qu'on va faire nommer 4, 6 nouveaux juges de gauche pour pouvoir diluer le vote des juges conservateurs. Imaginez, là, c'est parce qu'on est en train d'aller dans une course vers le fond pour récorcher de part et d'autre les institutions démocratiques les plus élémentaires aux États-Unis. C'est là que c'est pour ça que je parle d'une crise démocratique.
Ouais, c'est ça.
On joue avec la TNT présentement.
Mais il y a un beau côté à cette médaille-là quand même, Raphaël. C'est tout ce qu'on appelle, autre expression anglaise, je ne sais pas l'équivalent non plus, le check and balance. Tu sais,
ça, je peux te le dire.
La balance des pouvoirs aux États-Unis. Des fois, je me dis, j'aimerais ça avoir ça, l'équivalent de ça ici au Canada, là.
Mais c'est pour ça que c'est dangereux, c'est que c'est tellement quelque chose qui est extraordinaire dans le système américain. Et si justement tu commences à écorcher, là c'est que c'est plus qu'écorcher, là, si tu commences à changer de façon aussi drastique que ça, comment la Cour suprême fonctionne, c'est que tu t'en prends à sa légitimité même. Et donc, si tu affaiblis immensément une branche, ben tu affaiblis aussi justement le système de checks and balances, de poids et contrepoids, qui fait en sorte que tu as trois branches égales, l'exécutif, qui est la Maison-Blanche, le président, le législatif, qui est le Congrès, et le judiciaire, qui est la Cour suprême. Si la Cour suprême devient une espèce de cour de kangourou, d'institution bidon, c'est super toxique pour la démocratie américaine, et c'est ça le risque dans lequel on est plongé présentement. Et honnêtement, je vois peu de bonnes options possibles. D'un point de vue démocratique, là, peu importe ce que vous pensez de Donald Trump ou de ses juges à la Cour suprême, je pense que d'un point de vue de stabilité démocratique, ce qui est le plus souhaitable, ça serait que Donald Trump soit réélu pour que sa nomination, présumant qu'elle va de l'avant, elle est confirmée, soit au moins vue comme étant minimalement légitime. Mais ça, on a un président qui est battu et qui fait une nomination, qui va quand même de l'avant, qui est confirmée. Ça sera pas juste laid entre novembre et janvier. Ça risque d'être laid pas mal après janvier 2021
okay.
Également.
Bref, là, ça va aller vite dans les prochains jours, là, parce que Donald Trump parle de quoi? De désigner la personne vendredi, mais ensuite, le processus de validation, est-ce que c'est assez rapide? Ça pourrait se faire avant l'élection, dans les faits. Là.
C'est possible. C'est possible que ça se fasse avant l'élection, mais écoute, faudrait qu'on y aille rapide. Là. Je veux dire, ça serait assez inhabituel de faire confirmer quelqu'un de façon aussi rapide que ça. Souvent, ça va dépasser les 50, même les 60 jours.
Okay.
Là, je le disais, on est à 45 jours. Puis parce qu'on est dans un contexte préélectoral. On n'est pas au milieu du mois de juillet non plus. Là. Fait que c'est possible, mais ça serait très, 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 très particulier, disons, qu'on fasse confirmer cette juge-là avant le 3 novembre prochain.
En une minute, rapidement, Raphaël, il y a cette histoire-là qui fait beaucoup jaser ici, là, une Montréalaise qui a été arrêtée à la frontière canado-américaine. Ce serait elle qui aurait été à l'origine de l'envoi d'une lettre contenant de la ricine adressée à Donald Trump. Est-ce que ça fait beaucoup parler aux États-Unis ou nous, on en parle plus chez nous ici parce qu'on est très, très fiers de savoir que c'est quelqu'un de Montréal qui a potentiellement envoyé une lettre de même au président américain, ce qui est complètement débile?
Ben, c'est des belles. En même temps, je te dirais que c'est pas le premier cas de la sorte. Peut-être qu'il y a quelqu'un de la région de Montréal, c'est la première fois, mais des paquets empoisonnés, des colis suspects envoyés à des policiers américains. Malheureusement, on en a eu plusieurs dans l'histoire. Fait que c'est sûr que ça fait davantage réagir de ce que je vois, là, de ce côté-ci de la frontière que okay. de l'autre. Mais écoute, peu importe qu'on soit du côté américain, du côté canadien, peu importe c'est qui le président, c'est complètement condamnable comme acte. Et je permets d'ajouter ceci, j'entends. C'est extrêmement grave, là, on réalise pas, là. Mais c'est pas juste envoyer une lettre d'insulte. Tu fais ça, tu te fais prendre, comme c'est arrivé il y a, je crois, 5 ou 6 ans, avec un homme du Mississippi.
Oui, 2014.
Qui envoyé, 2014, ben c'est ça. Ben, tu connais l'histoire autant que moi. Ça veut dire, écoute, le type qui avait envoyé donc un colis suspect à Barack Obama, qui était président, a écopé de 25 ans de prison.
Wow.
Tu niaises pas avec ça. Là. Ouais. Tu ne niaises pas avec ça.
OK, ben on se reparle bientôt, Raphaël. Merci.
Merci.
Bye-bye.
Raphaël Salut. Jacob, notre spécialiste en politique américaine. Je sais pas si tu as vu le tweet que j'ai fait là-dessus hier sur...
Sur les médias montréalais,
ouais.
Les médias montréalais
ben
ou
là,
pas,
c'est
ou...
ça. C'est que là, ben du monde qui disait que c'est sûr qu'il y avait une madame qui avait envoyé de la ricine à Donald Trump parce que TVA, le Journal de Québec, le Journal de Montréal sont ben contre Trump. Mais en même temps, moi, je faisais partie de ceux qui étaient à la Réseau de Québec quand il y a eu la tuerie, la grande mosquée de Québec. Et on s'est insurgé que des gens osent mettre sur le dos des radios de Québec, le fait qu'il y avait un timbré, un terroriste, ouais, qui avait fait éruption à la mosquée de Québec. Mais là, si vous avez tenu, vous aussi, ce discours-là, il y a quelques années, vous pouvez pas vous retourner de bord et dire, ben, c'est normal que quelqu'un envoie de la ricine à Donald Trump parce que Charles Latendresse n'aime pas Donald Trump.
C'est complètement, c'est une théorie complètement stupide, désolé. C'est ça la réalité. Puis au procès d'Alexandre Bissonnette, il y a quelqu'un qui avait tranché ça assez clairement, OK? Je me souviens très bien de Michel Junot-Katsuya qui nous avait mis ça sur le dos, là, les jeunes de la Radio de Québec. Là. Mais il y a quelqu'un qui avait tranché ça très clairement au procès d'Alexandre Bissonnette. C'était le juge François Huot. Il avait tranché sur cette question-là, puis il avait lui-même déterminé, le juge du procès, que la Radio de Québec n'avait absolument exact. Rien à voir dans les gestes posés par Alexandre Bissonnette.
Voilà. Et on va faire une pause, peut-être juste en vous soulignant que le nouveau bilan vient de sortir. On va vous donner les détails au retour de la pause, mais sachez que c'est 586 cas, nouveaux cas au Québec. Il y a des hospitalisations, quelques décès aussi. On fait le tour de tout ça au retour de la pause. Vous écoutez Trudeau-Landry.